Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, presse féminine, la grande nunuche. Prenons au hasard, ou presque, un magazine de la presse féminine récent. En une, le titre du dossier principal, le pouvoir de la bonne humeur, voir la vie du bon côté, ça s'apprend. Dans les pages intérieures, 4 recettes de tarte express, une vingtaine de pages mode pour célébrer le mariage du jean et de la lingerie, des conseils pour décorer la chambre des kids et des échantillons de crème et de parfum. Alors évidemment, toute la presse féminine ne ressemble pas à cela, mais le magazine en question, Biba, en réunit tous les codes, en tout cas tous ceux auxquels on songe spontanément lorsqu'on n'est pas soi-même un lecteur régulier de Marie Claire, Grazia, Cosmopolitan, Elle ou encore Version Féminin. D'aucuns et d'aucunes rétorqueront que la presse féminine n'est plus celle que l'on croit, qu'il y a eu 20 ans, qu'il y a Cosette, que de tout temps, ces magazines ont aussi proposé des reportages de fond et accompagné l'émancipation des femmes. Sauf qu'avec la crise de la presse qui n'épargne pas ce secteur, les annonceurs se font plus présents dans les choix éditoriaux. Alors presse féminine, la grande nunuche. Question que je pose ce soir à 4 invités, à commencer par vous, Catherine Siné, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de Ciné Mensuel et désormais directrice de la rédaction de Ciné Madame, un tout nouveau mensuel qui est sorti hier, le journal qui ne simule pas, ça c'est le slogan. Qu'est-ce qui vous a pris, quelle mouche vous a piqué de vouloir sortir un journal qui s'appelle Ciné Madame?
Mais justement, tout à l'heure vous disiez le bonheur ça s'apprend dans un féminin, mais le bonheur ça s'apprend aussi aux hommes. Enfin, je veux dire, l'idée c'est ça. Quand même, je vois pas ce qu'il y a de féminin dans apprendre le bonheur. Donc nous, ce qui nous a fait...
Donc ça s'appelle Ciné Madame, mais ça n'est pas que pour les dames.
Oui, exactement. C'est aussi... En fait, on est une bande de copines, de gens, on en discute depuis très longtemps, et on s'amuse tellement entre nous. Et un jour, on s'est dit quand même, il y a des hommes autour de nous qui disent, vous nous laissez rentrer, écoutez ce que vous racontez, etc. On a dit, oui, non. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas. Et donc, on s'est dit, on va leur raconter les trucs qu'on veut bien leur raconter, évidemment, pas tout, parce que finalement, ça peut nous rapprocher, parce qu'on est tous des êtres humains. Donc, dans ce sens-là, c'est un journal effectivement fait par des femmes, pour le moment, en tout cas exclusivement par des femmes, mais aussi pour les hommes.
Alors, j'espère que vous allez continuer à vous amuser. On va voir justement si on s'amuse quand on travaille dans la presse féminine avec nos 3 autres invités. Isabelle Motreau, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de la rédaction de Cosette, avec en une ce mois-ci la jeunesse guidant le peuple. Je rappelle le slogan de Cosette, plus féminine du cerveau que du capiton. Et je rappelle que vous avez longtemps travaillé ici à Radio France, en particulier à France Inter.
Oui, c'est vrai.
Troisième invité, Isolde Williams, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur, c'est vous qui avez lancé la version française de Grazia, c'était en quelle année ?
En 2009.
Vous avez par ailleurs été directrice de la rédaction de Marie France et vous dirigez le master presse féminine à l'école supérieure de journalisme de Paris. Ce sera intéressant de nous expliquer ce qu'on y apprend dans ce master. Et puis quatrième et dernière invité, Lorraine Bastide, bonsoir.
Bonsoir.
Fondatrice et animatrice du podcast féministe La Poudre, le numéro 48 en ligne depuis quelques heures, je crois, est consacré à l'écrivaine Chloé Delhomme. Vous êtes par ailleurs une des porte-parole de Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes. Et vous avez travaillé pendant plusieurs années dans la presse féminine, notamment au magazine Elle, où vous occupiez le poste de rédactrice en chef des informations.
Tout à fait.
4 femmes, d'ailleurs, pour parler de la presse féminine. Est-ce que ça commence mal, s'agissant des clichés, Lorraine Bastide, ou bien est-ce que, effectivement, c'est un milieu qui est très peu masculin, même si je dois d'ailleurs dire à nos auditrices, à nos auditeurs, que nous avions aussi un invité homme qui nous a fait faux bond au dernier moment.
Oui, c'est ça. Je me suis fait la remarque, effectivement, ce matin, quand on m'a annoncé le casting, il y avait un homme. Et puis finalement, le soir, on n'est plus qu'entre femmes pour parler de presse féminine. Je suis pas très surprise, même si j'aime beaucoup l'invité en question, c'est pas ça le problème. Mais effectivement, cantonner les femmes journalistes au sujet dit féminin, c'est effectivement un des problèmes que Prenons la Une cherche à dénoncer et à faire bouger. Ouais.
J'ai regardé l'organigramme, enfin l'ours, qu'on appelle l'ours de Cosette. Il y a quelques hommes, mais ils sont loin d'être majoritaires, Isabelle Motreau.
Oh ils sont pas majoritaires du tout, non, en effet. Mais c'est c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard, parce qu'effectivement, les journalistes qui viennent à nous sont souvent des filles, hein, des femmes, des étudiantes en journaliste, etc. Mais si on a des bons journalistes hommes qui nous proposent de bons sujets, il n'y a aucun souci.
Des étudiantes, c'est là aussi la majorité de l'espèce, comme dirait l'autre, dans le master que vous dirigez, Isolde Williams.
Ah oui, absolument, c'est 80% de jeunes femmes. Et j'ai eu que 2 garçons cette année.
Voilà. C'est déjà beaucoup, je trouve.
C'est déjà, oui.
Qui s'intéresse exclusivement à la mode, je dirais. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent dans ce master. Voilà, c'est vraiment la mode qui est leur priorité. Sinon, ils feraient une école de journalisme classique.
Est-ce que plus largement, d'ailleurs, c'est la mode qui est le premier élément de motivation pour les jeunes journalistes qui veulent travailler dans la presse féminine ?
Non, je pense pas. Je pense que ça fait partie des ingrédients qui glamourisent les journaux féminins. Mais je crois pas. Je crois qu'il y a aussi plein les sujets société sont traités de façon très différente. Il y a toutes sortes de thématiques qu'on peut aborder de façon décalée, ce qu'on ne peut pas faire dans des journaux plus classiques. Donc souvent, c'est des gens aussi qui ont pas mal d'originalité. Moi, par exemple, j'ai fait travailler beaucoup de gens qui venaient du monde de l'édition, des écrivains, des gens qui ne travailleraient pas dans des journaux classiques, je pense.
Alors, le côté glamour dans la presse féminine, en tout cas dans l'image que j'en ai en général, ça passe d'abord par la une, par la couverture, souvent une jeune femme souriante, jolie, mince, bien habillée. Sauf dans Ciné Madame. Alors, vous nous disiez à l'instant, Catherine Ciné, que ça n'était pas l'objet de ce nouveau magazine que de se consacrer exclusivement aux femmes. Mais ce qui m'a quand même frappé, moi, dans l'illustration, parce que c'est pas une photo, hein, c'est une illustration, c'est qu'on trouve des femmes et des hommes. Est-ce que c'était un vrai choix délibéré que de montrer aussi des hommes en une de ce magazine ?
Tout à fait. Vous voyez, il y a des femmes qui parlent, il y a une femme au premier plan qui parle à un homme, il y a deux femmes qui parlent entre elles, deux femmes qui parlent à l'oreille d'un homme. Et justement, le but, c'est exactement ça, c'est de leur faire, d'essayer de parler entre nous, bien entendu, d'être drôle si possible. Et c'est d'ailleurs c'est un journal satirique, hein, c'est pas un féminin classique, hein, c'est un journal satirique. Et donc oui, on espère vraiment beaucoup que femmes et hommes le liront et en parleront à toute heure du jour et de la nuit.
Et j'ai pas regardé toute la collection des Cosettes, Isabelle Motreau, mais les hommes, ils ont leur place en une.
Alors, il y a eu un homme en une fois.
C'était
parce
qui?
Parce que c'était un comédien. Ce sont toujours des comédiens et des comédiennes qui sont, c'est pas des mannequins, hein, qui font les couves de Cosette. Parce qu'on parlait du congé paternel. Et donc, du coup, on a pris un homme, mais c'est vrai que d'habitude, ce sont donc des femmes. Il y a une diversité dans les unes de Cosette. Ce sont des femmes pas toujours jeunes, pas toujours blanches, pas toujours minces, pas toujours belles, mais juste qui nous amusent et qui représentent une idée ou en tout cas un dossier qu'on a envie de traiter ce mois-là.
Est-ce que ça fait de Ciné Madame et de Cosette des ovnis, disons, dans le paysage plus global de la presse féminine, Lorraine Bastide?
Oui, complètement. Bah, Cosette, quand Cosette est arrivée, c'était une provocation. Une façon frontale de justement venir dénoncer cette façon très stéréotypale de représenter les femmes qui étaient incarnées par le magazine Elle, par Marie-France, Marie-Claire, où éternellement, en couverture, on va trouver chaque mois, chaque semaine, le même type de femme, qui est donc cette femme mince, blanche, qui a 30 ans, qui est hétérosexuelle, qui a des enfants, qui aime la déco et la cuisine, mais qui a aussi un taf, qui n'existe pas en réalité.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, elle n'existe pas,
on
est sûr.
Elle a aussi assez d'argent pour avoir à la main un sac à 1000 euros. Enfin, cette femme n'existe pas et pourtant, ça fait 50 ans qu'elle est placardée sur tous les kiosques à journaux comme elle, comme étant la femme. Et c'est évidemment très douloureux pour toutes les femmes, et elles sont nombreuses qui ne ressemblent pas à ce modèle-là, de constater que l'identification est impossible.
C'est très douloureux et en même temps, ce sont les femmes qui achètent cette presse.
Bah oui, tout à fait. Ouais, on se fait mal quand on est une femme.
C'est ça, on en a marre d'être maso.
Oui et non, hein, parce que les femmes achètent aussi Cosette, et par exemple, mais il y a aussi des tas d'autres journaux. En fait, elles lisent beaucoup plus que les hommes, de toute façon. Donc elles achètent de la presse féminine, comme on dit, hein, avec des guillemets, mais elles achètent aussi d'autres journaux. Faut pas l'oublier, ça.
Oui, puis peut-être que ça répond aussi à certains codes, c'est-à-dire que, de toute manière, tous les journaux ont besoin aussi d'avoir certains marqueurs pour faire comprendre à leur public, justement, que c'est à eux ou que c'est à elles qu'ils s'adressent. La presse féminine n'y échappe pas. Isolde Williams, j'imagine que là aussi, ça fait partie des enseignements que vous prodiguez dans l'école de journalisme,
l'ESJ. Alors, le cours que je donne, c'est un cours de, on va dire, de culture culture générale d'histoire de la mode, d'histoire du féminisme et des justement des mouvements féministes au cours des siècles, parce que ce qui est important pour être un bon journaliste de presse féminine, c'est d'avoir une grande culture à la fois visuelle, mode, photographique, etc. C'est pas exactement la même culture que dans les journaux plus classiques. Je pense qu'il faut avoir une forme de pop culture, mais profonde, pas superficielle. Et c'est vraiment ça que j'essaye de leur enseigner. Voilà. Mais c'est tout nouveau, hein. C'est pas ma spécialité.
Mais c'est quand même curieux de créer une différence entre la presse féminine et la presse classique. Ça veut dire quoi?
Non, mais dans ce cursus qui n'a pas été créé par moi, je tiens quand même à le dire. Oui, oui. Le cours que je donne, il me semblait, de ce que je voyais, c'est qu'il leur manquait beaucoup de culture et que c'était ça qu'ils devaient avoir pour arriver à aborder un journal féminin avec des idées originales, avec un background. Parce que c'est ça qui est dramatique, c'est l'absence de culture de la jeune génération qui débarque. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je vois que Laurette Bastide
approuve. Non, mais je trouve ça très intéressant la remarque que vient de faire Isabelle, parce qu'effectivement, le terme même de presse féminine, il est extrêmement problématique. Avant que les micros s'ouvrent, on s'interrogeait, c'est quoi la presse masculine, par exemple? Alors, je sais pas, vous avez dit L'Équipe. L'Équipe, c'est un magazine de sport.
Donc, vous, c'est moi.
Voilà.
Ironique, mais il y a un peu de ça.
Non, mais a priori, voilà, L'Équipe, c'est un magazine de sport, c'est pas un magazine destiné aux hommes. À un moment donné, on a décidé qu'un magazine qui parlait de mode et de cuisine était destiné aux femmes. Donc il y avait déjà un enfermement, une espèce de catégorisation. Voilà les sujets qui devront intéresser les femmes, qui a été mis sous cette dénomination de presse féminine. Donc c'est pour ça que je comprends que vous tiquez un peu, Isabelle. C'est le terme même, presse féminine, il est à questionner, j'ai l'impression.
Bon, il y a aussi une presse masculine. Alors JQ, par exemple, cela dit, quand on regarde les stéréotypes d'hommes qui sont dans ce genre de magazine, ça fait mal aussi aux hommes. Il n'y a pas que les femmes qui... pour qui ça peut être douloureux de lire certains...
Mais bon, pour eux, c'est tout neuf. Ils sont en train de découvrir les joies des injonctions esthétiques.
Catherine Ciné, dans Ciné Madame, j'ai regardé, j'ai lu, il n'y a pas de rubrique mode.
Ah non, pas du tout.
Il n'y a pas de conseil beauté.
Non.
Il n'y a pas d'astuce déco.
Non.
Il n'y a même pas de recette de cuisine.
Non. Il y en a une dans Ciné Mensuel.
Tous les fondamentaux de la presse féminine sont absents et pourtant, ça s'appelle Ciné Madame. J'arrive pas bien à comprendre, en fait, la logique. Qui a été la vôtre ou qui est la vôtre?
Mais je dis, la logique, ça a été on est à peu près une vingtaine de nanas, et on a décidé de faire un journal qui n'était, bon, qu'on a appelé Ciné Madame parce qu'on est des femmes, quoi, voilà, c'est tout, mais qui n'est pas un journal féminin au sens strict du terme. D'ailleurs, il y a quelque chose d'important, c'est que, bon, le dessin de presse en France, après Charlie Hebdo, tout le monde voulait du dessin de presse partout, par parenthèse, il n'y en a nulle part parce qu'ils n'appelaient pas les annonceurs non plus. Et il n'y avait pas non plus, il n'y a pas en France de dessinatrices de... Enfin, il y en a deux, trois, quatre, allez, dessinatrices de presse. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, elles font de la BD, elles font de l'illustration. Mais de la presse, c'est extrêmement compliqué. Et ça, ça a été un de nos vrais problèmes. C'est parce qu'il n'y avait pas, à part une ou deux qui travaillaient déjà dans l'autre journal. On a dû vraiment chercher, quoi. Alors, on a trouvé une Italienne, une Hongroise, une Tunisienne.
Nous, on a une très bonne, mais on ne va pas vous la prêter.
Mais je le sais, c'est bien pour ça que je ne vous ai pas demandé qu'on n'allait pas quand même prendre... Elle est partout.
C'est qui?
Camille Bess.
Ouais.
Vous avez évoqué la question des annonceurs, Catherine Ciné. Peut-être que justement, le fait de ne pas avoir de publicité, ça vous épargne certaines rubriques qui pourraient être des rubriques obligées. Est-ce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est un élément très important pour distinguer justement cette presse féminine, même si vous n'aimez pas forcément justement cette appellation, Isolde Williams, c'est-à-dire le poids que pèsent les annonceurs. J'évoquais en ouverture cette discussion par exemple les petits échantillons qu'on pouvait trouver dans le numéro de Biba. Alors j'ai pris Biba, ça aurait pu être... Il y a plein d'autres titres, hein, voilà, c'est tombé sur celui-là. Mais on voit à quel point les pages de pub sont nombreuses et à quel point ça peut-être aussi avoir une influence sur les contenus éditoriaux.
Complètement. Alors, il fut un temps où il y avait un équilibre qui existait entre la rédaction et les annonceurs. C'est-à-dire que un directeur de journal, dans les années 80, il pouvait dire non, je ne parlerai pas de telle crème. Elle pouvait se payer ce luxe-là. Au fur et à mesure qu'il y a eu un déclin de la diffusion, les annonceurs se sont montrés de plus en plus pressants et il n'y a eu aucune résistance de la part des rédactions en chef, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'au-dessus de les régies publicitaires, père mettait la pression au rédacteur en chef afin qu'il remplisse des cahiers des charges qui n'étaient pas nécessairement quelque chose que eux-mêmes approuvaient. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu vraiment une dégradation de la presse féminine liée au pouvoir que les annonceurs ont pris sur les journaux féminins. Il suffit de voir les gens qui dirigent les féminins aujourd'hui. Ils viennent essentiellement du monde de la beauté ou de la mode. Ce sont des journalistes de beauté ou de mode aujourd'hui qui dirigent les magazines, alors qu'autrefois, c'était des intellectuels, c'était des écrivains, c'était des Françoise Giroud, c'était des Edmond de Charleroi. Aujourd'hui, il y a eu une dégradation du niveau intellectuel des personnes qui sont à la tête de ces journaux. Parce que ça accompagnait cette marchandisation des magazines féminins. D'ailleurs, on parlait de 20 ans tout à l'heure. Isabelle Chazot, qui a fait ce journal extraordinaire, qui a donné lieu même à des thèses tellement c'était extraordinaire, a dit cette phrase tellement juste. Les magazines féminins sont devenus des magasins. Et c'est bien pour ça que les lectrices aujourd'hui lui tournent le dos. C'est pas juste Internet, il faut quand même voir l'offre. Enfin, voilà, ça c'est de mon point de vue, il y a quand même une raison à cette crise.
Vous qui avez passé, pardonnez-moi, oui allez-y Catherine.
Non, j'ai très bien connu une rédactrice en chef d'un très grand journal féminin qui devait tout simplement montrer son sommaire à son principal annonceur chaque mois.
Voilà. Vous qui avez du coup travaillé quelques années au magazine Elle, Lorraine Bastide, cette évolution-là, vous l'avez vue, et cette pression des annonceurs, vous étiez donc à un poste de rédaction en chef, c'était peut-être pas les pages beauté, donc c'était page information.
Les pages actualité du début du journal pendant les deux dernières années, j'ai passé 10 ans au Elle. Et ce que je raconte souvent, c'est que en fait, j'ai vraiment vu l'évolution. C'est-à-dire que sur les 2 ans, au début de cette mission de rédac chef qu'on m'avait donnée, il pouvait arriver que la directrice de la rédaction m'appelle en me disant, il faut absolument que tu passes dans tes pages un sac Dior parce qu'il vient de sortir, ils ont pris une heure, il faut que tu le fasses, machin. Au bout d'un an, j'avais la régie pub qui m'appelait directement. Il n'y avait déjà plus ma chef dans la boucle, c'était directement la régie pub qui me disait attention, Vuitton, ils ne sont pas contents. Je dis plein de marques, hein, désolé.
Si vous en donnez plusieurs, ça va, il paraît que le CSA.
Bon, alors j'en donnerai une troisième après. Voilà, Vuitton, ils ne sont pas contents, essaye de faire quelque chose. Et en fait, à la toute fin, juste avant que je parte, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'en pouvais plus et je suis partie, c'est qu'en fait, c'était l'annonceur qui m'appelait directement. C'est-à-dire que j'avais directement le coup de fil de Chanel, donc une petite troisième, qui me disait mais c'est quoi, comment ça se fait que la silhouette soit plus petite que celle de Dior dans le défilé, qu'est-ce que t'as fait ma chérie, voilà. Et petit à petit j'ai vu aussi l'espace, alors le magazine Elle a cette particularité d'avoir ses pages au début qui mélangent l'actualité et la mode, on peut trouver un macaron la durée à côté d'une photo de la guerre en Syrie, c'est très perturbant, mais bon, moi c'est ce qui me plaisait à l'époque quand je suis arrivée là-bas. Et petit à petit cet espace alloué à la société, à la politique, à l'actualité internationale a diminué comme peau de chagrin parce qu'il fallait mettre tous les gadgets, les porte-clés, les gloss.
Et ça vraiment en lien avec la baisse de diffusion. C'est-à-dire, moins la presse vendait, plus il fallait faire plaisir
bien
aux
sûr,
annonceurs.
Bien sûr, c'est mathématique en fait. Un journal, il vit sur 2 sources de recettes, hein, les annonceurs et la vente en kiosque. Et la vente en kiosque, moi je suis arrivée au magazine Elle en 2005, la diffusion était autour de 200 000 exemplaires je crois, et quand je suis partie on était en dessous de 100 000. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit sur les 10 ans où j'étais là-bas qui a été drastique. Ouais.
Si je peux juste ajouter quelque chose dans le sens de Lorraine, moi la formule que j'ai faite de Grazia a eu beaucoup de succès parce que c'était une formule qui était très actu, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets internationaux, il y avait de la politique, il y avait des enquêtes, j'avais engagé des gens qui venaient du Canard Enchaîné, du JDD, etc., plus des gens de la mode, plus des gens du People, et c'était un vrai bon mix. Et quand j'ai quitté le journal, ils ont changé la ligne et ils ont fait un journal beaucoup plus psycho-sexo, très classique à la Biba. Eh bien, ça a été l'effondrement des ventes. Et l'effondrement des ventes a entraîné l'effondrement de la pub. Donc, vous voyez, quand on ne fait pas confiance à l'intelligence des lectrices, c'est ça aussi qui joue contre les journaux féminins.
Isabelle Motreau.
Ben, nous, alors, on est vraiment le modèle opposé, puisque dans Cosette, il n'y a pas de pub, il y en a très très peu. Il y a maximum 10 pages de pub, et c'est encore pas toujours le cas, et c'est la plupart du temps des objets culturels, des livres, des films, etc. Donc, en fait, notre modèle économique est uniquement, on s'appuie uniquement sur les kiosques et les abonnements.
Une crème minéralisante ce mois-ci.
Oui, alors là, c'est la première fois qu'on fait ça en 10 ans. Bon, alors on a testé le produit, on a regardé d'où ça venait, comment c'était fait, etc. C'est épuisant, donc je pense qu'on va pas le refaire.
Mais c'est vous qui les refusez ou c'est les annonceurs qui viennent pas?
Alors, c'est les deux. Pour être tout à fait honnête, les annonceurs, ils savent très bien que bah, c'est pas trop la peine parce qu'on en a refusé beaucoup, souvent. Et bon, maintenant, ça fait 10 ans, ils ont compris quoi. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, ça nous arrive souvent de refuser des annonceurs parce que on n'a pas l'impression que c'est pas Cosetto compatible quoi. Et on sait que nous, on n'a pas envie et nos lectrices non plus. Mais on l'a payé cher. Hein. Le journal a été en liquidation. On a été sur la paille. Maintenant, on a été racheté et ça va mieux. Mais c'est une liberté qui coûte très cher, quand même, faut le savoir.
Avant d'entrer en studio, Catherine Siné, vous nous appreniez, enfin, en tout cas, moi, vous me l'avez appris, qu'il y a quelques années, vous aviez déjà lancé un magazine féminin en Italie.
Oui.
Qu'est-ce que c'était ce magazine ?
Vous dites, en 65. C'était un magazine qui s'appelait Ragazza Pop, qui était destiné aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Et c'était une époque où on n'avait évidemment pas ni l'avortement, ni la pilule, ni le droit de travailler sans l'autorisation, ni le droit parental, ni le droit d'avoir un chéquier. Enfin, vous voyez. Donc il y avait vraiment du grain à moudre. Et effectivement, ça a marché.
Très bonne citation. Bravo.
ça a marché formidablement bien, quoi, effectivement. Parce que les gens tombaient des nues, quoi, qu'on raconte tout ça. Et on a fait que ça. Alors, on faisait aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mode non plus, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Il n'y avait pas tout ça. Tout ça était nouveau, quoi. On allait chez la couturière se faire faire une robe. Et donc, on a fait ce journal qui était vraiment très, très nouveau. Et on s'est bien amusé, quoi, il faut le dire. Voilà. Et pour en revenir sur la publicité, moi, je ne comprends pas le principe même. Nous, on ne vit que sur nos lecteurs, hein, sur les deux journaux. Et je comprends pas pourquoi on devrait, parce que c'est difficile de faire un journal quand même, ça prend du temps, c'est de l'effort, il faut réfléchir. Pourquoi on ferait ça pour des annonceurs? On fait pour nos lecteurs. Alors, effectivement, il y a un peu ça que c'est, on n'est pas aussi bien payé, peut-être, quand on est rédactrice en chef ou je ne sais quoi d'un grand journal. Nous, chez nous, tout le monde est payé de la même manière, donc comme ça, c'est clair et net, que ce soit les pigistes ou les grands dessinateurs, on s'en fiche, c'est pareil. Et je trouve que, voilà, on fait confiance à nos lecteurs et ils sont là. Ça fait 10 ans maintenant qu'on est là. Là, bon, bah, c'est hier, donc on va voir. Mais j'aime bien cette idée de pas de publicité, quoi. On peut pas à la fois dire on veut pas de pub avec les filles en soutien-gorge au milieu des rues. Et puis, il y a vraiment une contradiction. Et par ailleurs, sur la mévente des journaux féminins, moi, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des femmes.
Parce que ça
me frappe énormément. Moi, dans ma génération, le mot féminisme est devenu un mot, mais juste qu'on pouvait pas prononcer. Parce que... on se faisait agonir, quoi.
Alors justement sur cette prise de conscience, c'était une question que je voulais vous poser. Parce que je sais plus laquelle de vous deux, Lorraine Bastide ou Isolde Williams, a dit tout à l'heure, il faut aussi faire confiance à l'intelligence des femmes. Mais est-ce qu'il faut pas aussi leur faire confiance, c'est-à-dire de dire que quand on regarde un féminin, alors je vais citer Biba, ça peut être Madame Figaro, ça peut être comment s'appelle celui que je citais en tout début d'émission, le supplément du JDD,
voilà,
version féminine. On n'est pas obligé non plus de tout prendre au premier degré, oui, c'est-à-dire les conseils qui sont donnés, c'est pas forcément à suivre au pied de la lettre, on sait bien ce qu'on lit. Non, Isolde Williams.
Bien sûr. Non, mais il y a eu une dégradation réellement. Moi, si je repense au Marie-Claire des années 80-90, c'était, ou 70 même, ça a été des journaux porteurs d'idées qui ont été précurseurs, qui ont fait bouger la société. Rappelons-nous que c'est quand même Marie-Claire qui a publié le livre noir de l'avortement, qui a fait les premiers grands témoignages de femmes lesbiennes. Quand on regarde.
Mais ce sont des magazines qui s'engagent encore aujourd'hui. Il y a encore du contenu, il y a encore de l'éditorial.
Mais beaucoup moins, et ils sont beaucoup moins modernes qu'ils l'étaient à cette époque-là. Quand on regarde les Marie-Claire des années 80, c'est extraordinaire. Ils ont l'air de sortir aujourd'hui. Et quand on regarde les magazines féminins d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils datent d'il y a 20 ans. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui est très étrange, parce qu'on est dans une génération MeToo, où on est en train de revendiquer la question du genre est au centre des débats, etc. Et on a l'impression qu'il y a une régression qui s'est faite dans les féminins.
En même temps, cette question MeToo, elle est très présente dans toute la presse, pas seulement la presse féminine, mais en tout cas, Isabelle Motreau et ensuite Lorraine Bastide.
Il y a un peu de féminisme washing, comme on dit, de greenwashing.
Exactement.
C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de féminins qui vont consacrer 2 pages à MeToo et 12 pages à comment rajeunir pour enfiler son maillot de bain. Je caricature,
mais ça vous paraît totalement contradictoire, d'afficher ces deux types de contenu.
raconter. Bien sûr. Enfin,
moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Non, mais je pense que la gravité, la frivolité peuvent cohabiter.
Non, mais la gravité,
c'est ce qui fait le charme d'un magazine féminin.
La gravité et la frivolité, d'accord. Ouais. Mais il y a des injonctions qui ne sont pas frivoles. Enfin, je veux dire, quand on vous dit il faut rajeunir absolument, c'est pas frivole,
non,
ça.
Non, ça. Oui, mais c'est voilà. Sur cette idée-là qu'il faut pas prendre les lectrices pour des débiles. Moi, je pense que c'est quand même aussi important de se dire qu'on peut feuilleter un magazine féminin en étant détendu, en étant bien dans sa peau, avec ses bourrelets, ses rides, ou je sais pas quoi, sans se sentir forcément agressé par une page où il y a des crèmes de jour anti-rides. Enfin, les lectrices sont parfaitement capables de faire un pas de recul et de pas ne vivre comme des injonctions tout ce qui est écrit dans les magazines féminins.
Ce que je voulais juste dire, c'est la contradiction qui me... Parce que effectivement, on peut tout à fait... Moi je lis, bon, évidemment, professionnellement, je lis les autres magazines féminins, mais je prends plaisir à les lire aussi, parce que c'est léger, c'est frivole et qu'on en a besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont, alors là, pour le coup, vraiment contradictoires et qui, moi, me choquent. C'est, là, je parlais de l'âge, mais toutes ces injonctions, cette façon d'appréhender la société dans laquelle les femmes ont quand même, encore aujourd'hui, une place qui n'est pas toujours égalitaire, ne serait-ce que sur les salaires, et en même temps mettre à la file des pubs qui, elles, soutiennent cette société-là et construisent une société qui est toujours patriarcale.
Pour vous, Isabelle Motreau, la presse féminine ne pourrait pas être autre chose qu'une presse militante?
Mais moi, je suis pas pour la presse féminine. Je veux dire, moi, pour moi, la presse, c'est la presse. C'est comme si vous me disiez, c'est comme quand on dit la chiclite, la littérature féminine. On sait très bien que c'est une sous-littérature.
Alors,
pour moi, la presse, c'est la presse.
Mais oui, mais il y a des catégories. Il y a la presse féminine, la presse sportive. Il faut pas la nier. C'est une réalité. En revanche, la bonne presse féminine, elle peut être lue par les hommes. Et la bonne presse féminine était lue par les hommes. Vogue était lue à l'époque où c'était un journal extraordinaire par des intellectuels. C'est le contenu qui compte. C'est pas la catégorie dans laquelle on est placé. Moi, ça ne me choque pas.
Moi, j'aimerais simplement revenir sur cette histoire de féminisme dans la presse féminine, parce que justement, je ne crois pas que ce soit du féminisme washing. Je crois que, comme l'a très justement rappelé Iseult, Marie-Claire, elle, ont dans l'histoire des femmes vraiment eu un rôle très important historiquement. Oui. Et dans l'ADN, par exemple, du magazine Elle, il y a le féminisme. Moi, c'est la raison pour laquelle j'y suis allée. Cette phrase de Françoise Giroux qui était le sérieux dans la frivolité et la légèreté dans le grave, moi, ça me parlait. Moi, j'étais une femme qui m'intéressait à la politique, mais qui adoré aussi parler de vernis à ongles, j'étais là genre, ah, il y a au moins un lieu où je pourrais être moi. Sauf que petit à petit, ce qui s'est passé dans sa rédaction, c'est que très clairement, elles sont très conservatrices. Et qu'aujourd'hui, quand elle parle de MeToo, c'est pour se demander si nos jeunes garçons ont encore le droit de draguer dans les booms. Les pauvres, ils savent plus s'ils peuvent faire des bisous aux filles ou pas. Et vraiment, il y a un décalage, une incompréhension qui est politique et générationnelle de ces questions-là, parce qu'elles sont très bourgeoises et très conservatrices.
Il n'y a pas que les jeunes.
C'est très opportuniste leur façon de revendiquer leur combat féministe. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait eu une femme qui est battue, qui soit morte, et ça y est, hop, la semaine d'après, stop la violence. Mais c'est pas ça. Le féminisme, de réagir uniquement quand il y a un fait divers, il faut que ce soit, ça transpire dans le journal tout le temps.
Peut-être à la décharge en tout cas de ces magazines, et sur ce que vous disiez Lorraine Bastide sur les jeunes garçons qui sont peut-être un petit peu perdus aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes garçons, il y a aussi ceux qui sont peut-être un petit peu plus vieux. Il y a un courrier des lecteurs en dernière page de Ciné Madame à Catherine Ciné. Alors ce sont les lecteurs, si j'ai bien compris, de Ciné Mensuel qui ont envoyé des courriers et qui se posent aussi beaucoup de questions sur la façon dont ils doivent se comporter avec les filles aujourd'hui.
Voilà, ils sont perdus depuis MeToo, là ils nous disent comment on fait, quoi. Parce que franchement, ils savent plus s'ils ont le droit de. Non, je sais pas qui raconte. C'est quand je vois une jolie fille, est-ce que j'ai même comment elle prend mon regard sur elle, etc. Ils se posent des questions qui sont vraiment qui m'ont interrogé sur eux, quoi. Parce que bon, tu regardes une jolie fille, moi je regarde un beau garçon. Enfin, je veux dire, quelle est la différence? Et donc effectivement, ils se posent énormément de questions sur. Et encore, ceux-là, ils sont plutôt sympathiques, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu moins sympathiques.
Alors, je ne sais pas s'ils se posent énormément de questions sur le clitoris, mais en tout cas, l'article le plus long, le plus documenté de ce premier numéro de Ciné Madame, Catherine Ciné, il est consacré au clitoris, ce très obscur objet du plaisir. Il est signé par Isabelle Alonso. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix pour un journal qui ne se veut ni féminin ni féministe de consacrer votre principal article au clitoris?
Alors, Parce que bon, on s'est aperçu, on s'est renseigné que 75% des femmes ne savaient pas exactement ce que c'était. Voilà, comment c'était fabriqué. Tu leur ah, 10 cm, mon Dieu, c'est incroyable,
12,
etc.
Catherine.
De 10 à 12. Et donc, on l'a représenté, on l'a fait dessiner par une peintre de génie. Et alors, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est en Australie, il y a 20 ans exactement, qu'il y a tout d'un coup un type qui s'en occupe, parce que jusque-là, on savait pas ce que c'était. Et
on savait, mais on a oublié entre-temps.
On savait, mais pas complètement. Hein. Oui, enfin, oui, au Moyen-Âge, toujours pareil.
C'est ça, voilà.
Voilà.
Il a disparu quand on a découvert qu'il ne servait qu'au plaisir. Voilà. Et alors là, subitement, ça ne pouvait plus exister.
Et donc, ça fait juste quelques années qu'on a été voir vraiment comment ça bougeait, etc. Et en fait, on s'est aperçu tout simplement que le clitoris, c'était exactement comme un sexe masculin, mais à l'intérieur, et puis c'est tout. À la différence près qu'effectivement, le clitoris, ça ne sert qu'au plaisir.
Mais alors, c'est peut-être une impression qui est totalement faussée, mais moi, j'ai l'impression que, depuis quelques temps, les articles sur le clitoris, les reportages sur le clitoris, il y en a énormément. Est-ce que c'est pas en train de devenir aussi une forme de nouveau conformisme d'une partie de la presse féminine, d'être sur ces questions-là, sur la question des règles, je sais pas quelles autres questions, Isabelle Motreau?
Alors, nous, on a fait à Cosette, je parle tout le temps de Cosette, mais évidemment, je suis là pour ça, en même temps. On a fait un hors-série sur le clitoris il y a 5 ans. Qui s'appelait Voyage en clitoris et qui reste notre meilleure vente.
Il était culte, collector.
Et qu'on ressort. Non, mais alors là, du coup, on le ressort parce qu'on nous l'a tellement demandé que voilà, on n'en avait plus. Et donc, ça y est, je le dis officiellement. Hein, Voyage en clitoris est de nouveau en kiosque. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que, bon, on pensait que ça allait marcher, mais 100 pages là-dessus, voilà, c'est quand même un petit pari, quoi. Ça fait le buzz, ça a plu à tout le monde, et c'est vraiment un sujet, le plaisir en fait, qui est hyper fédérateur.
Oui, mais est-ce que ça véhicule pas un autre stéréotype de la fille qui s'assume totalement, qui est totalement libérée sexuellement, qui parle de ces questions-là sans aucun tabou désormais? Je ne sais pas si vous considérez que c'est ce que vous faites avec votre podcast, Lorraine Bastide, dont je rappelle le titre, La Poudre. Podcast féministe, mais en tout cas il y a je sais pas si on peut parler de mode, enfin en tout cas un phénomène assez visible aujourd'hui.
Moi je parlerais plutôt d'une prise de conscience, d'une révolution, quelque chose qui est de l'ordre du politique, c'est-à-dire que vous parlez de règles, c'est devenu la mode, enfin bon d'accord, mais ça fait quand même des siècles qu'on n'en parle pas, donc laissez-nous le temps de bien diffuser le message, quoi, de bien en parler encore, parce qu'apparemment c'est pas rentré dans l'esprit de tout le monde, toujours pas, et c'est important en fait de parler de règles et de parler de clitoris, c'est super important. Par exemple, parler de clitoris, ça permet, je sais pas, par exemple, aux lesbiennes de vivre mieux, qu'on arrête de leur dire, mais alors vous faites quoi, Uli? On a deux clitoris, c'est sympa. Parler des règles, ça permet à des femmes qui travaillent de dire à leur patron, désolé, en fait, j'ai hyper mal au bide quand j'ai mes règles et je peux pas travailler demain. Et libérer cette parole-là, en fait, on peut croire que c'est que dans les journaux, que c'est que dans les podcasts, mais en réalité, ça agit sur les mentalités et ça libère aussi les paroles des femmes dans leur vie quotidienne. Donc, ce qu'on est en train de faire, et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, je pense qu'il faut encore parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles, de ménopause, pose et de clitoris, on est en train de changer petit à petit les mentalités qui étaient quand même bien, bien, bien fermées sur ces questions-là.
Il est peut-être temps un peu de résoudre ce problème. Vous êtes clitoridienne ou vaginale?
Oui, mais aucun des deux.
C'est réglé.
Et Laura, je ne sais pas si un homme a déjà osé poser d'ailleurs une question aussi stupide.
Enfin, quand t'es pas les mêmes que nous.
Non, sans doute pas. Isabelle Motreau, Isabelle Williams.
Tu n'as pas l'impression que la génération des 20 ans bouge beaucoup par rapport à ça, qu'ils sont beaucoup moins coincés que nous?
Ils sont beaucoup mieux informés,
c'est
en fait. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais jamais vu mon clitoris dessiné, quoi. Ouais. Maintenant, grâce notamment au supplément de Cosette il y a 5 ans, enfin, moi, je me rappelle de ce supplément. Mmh. J'ai découvert la tronche de mon clitoris grâce à Cosette.
Il faut dire que
c'est quand même délirant à 25 ans, quoi.
On avait eu l'idée grâce à Odile Philo, qui est la première, une chercheuse qui a eu l'excellente idée de donner en open source le modèle de clitoris qu'on peut fabriquer dans n'importe quelle imprimante 3D, maintenant à taille réelle. Et c'est grâce à ça qu'on s'y intéressait. Mais c'est...
Et si je peux me permettre, Odile Filot, je l'ai interviewée dans Les Savantes sur France Inter, oui, et on peut l'écouter, l'émission en replay, elle est passionnante. C'est un vrai combat. Ouais.
Bon, donc ma question sur le nouveau conformisme qui consisterait à traiter de ces sujets et à en traiter de manière totalement libérée, je vois que ça n'a aucun succès. Isotte Williams.
En même temps, ce conformisme permet justement d'en parler et ensuite de moins en parler et de mieux le vivre. Donc voilà, moi j'avoue.
On ne va pas se retrouver tous les ans avec le dossier clitoris, le dossier immobilier dans l'Obs, par exemple.
Moi j'avais horreur de ça quand je dirigeais les magazines féminins, je détestais les dossiers sexo, ça m'a toujours profondément dégoûtée, sans doute parce que je suis anglo-saxonne. Mais il fallait le faire, ça faisait partie
des... Il faut voir comment sont faits les dossiers sexo dans les magazines féminins,
de façon ridicule.
Elle est comment la presse féminine anglo-saxonne? Vous la connaissez un petit peu, les autres
Williams? Je dirais qu'elle est peut-être un peu moins raffinée que la presse féminine française. Elle est plus trash, elle mélange plus les genres, elle est moins coincée, je pense. Voilà.
Catherine Sinet.
Mais dans Ciné Madame, donc, il y a aussi, on s'occupe aussi des messieurs. Vous avez vu, il y a un très très grand article, presque aussi grand que le clitoris, sur la débandade, c'est-à-dire l'andropause ou la ménopause des hommes. C'est effarant le peu d'hommes qui connaissent, qui savent qu'ils ont des bouffées de chaleur, tout d'un coup ils ont une perte de voilà d'un petit peu tout, ils sont déprimés, il y en a qui appellent ça le démon du midi, enfin, on le surnomme de tout, mais il suffit d'aller voir, c'est comme pour les femmes, c'est une petite baisse d'hormones, ça soigne très bien.
Est-ce qu'il y a encore des sujets qui paraissent, si ce n'est tabou, en tout cas très compliqués à aborder quand on fait une presse qui est lue, on va dire comme ça, majoritairement par des femmes, Isabelle Motreau?
J'ai l'impression, moi, quand même, nous, on s'est dit que la ménopause était, par exemple, un sujet encore assez tabou. La ménopause sociale aussi, parce qu'il faut savoir que, en réalité, c'est un peu une création, hein. La ménopause, elle est différente de ce qu'on en dit depuis à peu près 35, 40 000 ans.
Donc, une construction sociale aussi, la ménopause?
Il y a une base biologique, mais il y a tout ce qu'on raconte autour, vous voyez. Je vous enverrai le dossier, vous verrez.
Parce qu'en termes de construction sociale, je trouve qu'il y a un article moi qui m'a interpellé, on va dire, dans le Cosette de ce mois-ci, qui s'appelle l'ovule au bois dormant. Et je vous cite juste le chapeau. Un spermatozoïde conquérant face à un ovule passif attendant d'être fécondé. Et si on en finissait avec les stéréotypes associés au masculin et au féminin. C'est-à-dire, vous allez quand même chercher les stéréotypes de genre dans des domaines très très comment dire. Très audacieux et très, très éloigné et infiniment petit.
Oui, mais les stéréotypes de genre sont dans des domaines très audacieux et microscopiques. C'est comme ça qu'il y en a partout et qu'on ne les voit pas forcément, vous voyez. Donc il faut aller les débusquer là où ils sont et là où finalement ils vivent très bien. L'ovule entouré. Ça vous a jamais frappé cette histoire d'ovule au bois dormant avec les petits spermatozoïdes vachement combatifs là?
Ça m'a frappé comme quelque chose d'extrêmement injuste pour le genre masculin, c'est-à-dire un seul élu pour énormément de combattants.
Oui, alors, mais c'est exactement donc, cette idée.
Je voyais plutôt quelque chose de très valorisant pour les femmes.
C'est très romanesque hein, quand même. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop romanesque pour être vrai, ça?
Ah, sans doute, oui. Allons. Mais comme tous les romans, on l'a dit. Voilà. Lorraine Bastide, une jeune fille, une adolescente qui, aujourd'hui, veut trouver des réponses aux questions qu'elle se pose spécifiques justement à sa génération, en fait, que ce soit une jeune fille. Est-ce qu'elle peut trouver dans la presse féminine aujourd'hui de quoi répondre à ces questions? 20 ans n'existe plus. Je ne sais pas d'ailleurs si 20 ans s'adressait aux adolescents.
Qui a été un magazine.
Donc, c'est Isolde Williams.
Pardon, qui a été créé par Isabelle Chazot, enfin qui a été, on va dire, relancé par Isabelle Chazot, qui en a fait un journal, mais d'une intelligence, d'une drôlerie, qui décodait justement toute la mythologie contemporaine liée à la consommation, à l'hypersexualisation de la société. Et c'était un journal qui faisait du féminin tout en le déconstruisant. Elle faisait même des sujets beauté, du style comment se maquiller pour un enterrement. Alors ça, c'était l'accroche, mais quand on allait creuser, évidemment, on parlait du deuil, on parlait de beaucoup de choses. Donc, cette presse-là...
Pour répondre à la question, je pense que en fait, aujourd'hui, les jeunes filles ne sont plus tout à fait d'accord avec cette espèce de verticalité qui était... la journaliste de Elle vous explique la vie. Cette semaine, on adore les macarons à la pistache, on adore le bleu sur les murs et on adore dire... tel mot ou aller dans tel restaurant. Aujourd'hui, en fait, je pense que si on doit définir la génération MeToo, c'est une génération qui parle pour elle-même et qui parle entre elles. Donc je crois que les informations, elle va les trouver sur les réseaux sociaux, chez ses copines, en partageant des vécus de femmes et aussi grâce à la lutte contre tous les tabous qu'on a évoqués aujourd'hui. Cette discussion, elle est beaucoup plus facile à avoir qu'avant. Donc je pense qu'elle a plus trop besoin des magazines féminins.
Et elle va détester que je parle d'elle, mais ma fille qui a 15 ans, quand je lui ai dit hier que je faisais une émission sur la presse féminine, m'a dit comment ça, c'est hyper sexiste de parler de presse féminine.
Elle est super.
C'est ce que je voulais entendre dire. Merci beaucoup en tout cas à toutes les quatre d'avoir participé à cette discussion. Isabelle Motreau, donc directrice de la rédaction de Cosette, Lorraine Bastide, le podcast La Poudre, avec Chloé Delhomme pour le dernier numéro, c'est le numéro 48. Isolt Williams, vous êtes en train d'écrire un livre consacré à
Marie-Claude Vaillant-Couturier chez Grasset.
Voilà. Et puis Catherine Ciné, Ciné Madame et Ciné Mensuel sont les deux journaux que vous dirigez. Merci à toute l'équipe du Grain, Jean-Christophe Brianchon, Virginie Leduo, Fanny Richet, Antoine Dulster, Cyril Marchand, émission réalisée par Émilie Valla avec à la prise de son Alexandre Dang.